Soyez les bienvenus. Que vous êtes sages. D'habitude, on dit, y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il quelqu'un dans la salle? Alléluia. C'est toujours bon de venir dans la présence de Dieu, de se rassembler sous son regard et de pouvoir, bien sûr, bénéficier de son conseil. Et quel conseil que celui des hommes! Mais comparé à celui de Dieu, Jésus est appelé le divin conseiller. Ça, c'est un cadeau formidable que Dieu nous a fait en nous donnant Jésus. Puis qu'il nous donne également son conseil, sa richesse. Amen. Allez, on va ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2. On va lire 9 versets. Voici ce que dit l'apôtre Paul. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, pas meilleurs comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous vous rendez compte? Si vous êtes né, comme on dit, avec la cuillère d'argent, je ne sais pas comment on dit. La cuillère en or, argent, hein, c'est-à-dire dans un milieu bien favorisé, eh bien vous auriez, si ce n'était pas comme cela, si ce n'était pas par grâce, eh bien vous auriez la possibilité de faire des actes pour justement qu'on vous doive après. Et Dieu vous aurait dû donc, il vous aurait dû quelque chose, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais là, c'est par grâce, comme ça, personne ne se glorifie. D'abord, il nous voit comment? Comme des gens formidables. Elle nous regarde, là. Comme des gens formidables, comment il nous regarde, le Seigneur? Il nous regarde avec amour, bien sûr. Une grande miséricorde aussi, parce qu'il en faut pour nous. Mais il nous regarde au départ comme des pécheurs, privés de sa grâce. Privé de son amour. Et voilà qu'il est allé plus loin que nous, nous serions allés. Il est allé jusqu'à livrer son fils en sacrifice pour nous. Amen. Et c'est grâce à cela, nous étions morts par nos offenses, et il nous a rendus à la vie par Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, quelle triste condition à une certaine époque que celle des habitants d'Éphèse, auxquels l'apôtre Paul a destiné cette lettre, elle est pour eux, elle est pour nous aussi, parce que vous allez voir qu'on leur ressemble. Alors, il leur rappelle leur passé, ce qu'ils étaient avant de connaître l'Évangile. Vous étiez sans Dieu, donc sans espérance. C'est la voie de conséquence, vous voyez, c'est un rapport. Alors, Dieu, ça c'est un mot aujourd'hui, je dirais, qui n'a plus de sens. Ça fait vieux. C'est un mot qui est peut-être bon, je dirais encore, pour faire peur aux petits-enfants. Tu vois, le bon Dieu s'y t'attrape. Tu sais que le bon Dieu il te voit. Ça, c'est quand les hommes n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités auprès de leurs enfants. Quand ils deviennent ados, etc. Donc, on essaie de leur faire peur, de les corriger comme ça, de les assagir. Alors également, ça peut être aussi bon pour assister les grands-mamans et les grands-papas, les vieillards, à l'heure de leur mort ou quand elle approche. Et oui, il faut qu'ils se raccrochent à quelque chose. Donc allez, on va mettre Dieu au milieu. Ou encore, dans une certaine mesure, pour donner une ligne de conduite, une morale. Mais à part ça, le mot Dieu, on dit c'est dépassé, c'est démodé. On est quand même dans une ère moderne. Regardez, c'est l'ère de l'informatique. Mais alors, waouh, ça fonce. Mon épouse a connu au début de l'informatique, au tout début, les grandes armoires où il y avait les bandes. Vous voyez les bandes qui montaient, qui tournaient. Les cartes perforées où on mettait et ça écrivait. Elle a connu ça. Il y avait tout le mur. Aujourd'hui, on en est à la micro-informatique. Mais est-ce que le cœur de l'homme est satisfait pour autant? Tout va très vite aujourd'hui. Mais on n'est pas satisfait, hein, on n'est pas comblé, on n'est pas rempli. Alors, nous vivons dans un siècle où l'on tend par tous les moyens à se passer de Dieu. Sans lui, on veut bâtir une société. Sans lui, on veut trouver la paix, la sécurité, le bonheur. Qui veut le bonheur ce soir? Levez la main. On est quelques-uns, hein? Bon, il y en a qui ne le veulent pas, attends, ça les regarde, hein? Mais si vous voulez le bonheur, eh bien, il y a des choses à faire, vous allez le voir, hein? On peut le trouver ce soir, hein? Alors, sans lui, je disais qu'on veut bâtir cette société, hein? On aimerait trouver la paix véritable. Est-ce qu'on peut vivre sans paix, toujours en guerre? La guerre, ça va un moment. La guerre, ça va un moment. Ça use. Ça mine là-dedans. Là-dedans, alors n'en parlons pas parce qu'il y a des déchirements complets. Il y a des vies détruites. Hein, on veut la sécurité, le bonheur, comme je disais. Et ce bonheur, on le cherche partout, partout, partout. Ces choses-là, on les cherche partout, sauf auprès de Dieu. Et le problème, il est là. C'est qu'on cherche dans la mauvaise direction. Chaque vie, chaque individu, pourtant, doit poursuivre un but, une espérance, un idéal. Et celui-ci, pour être véritable, eh bien, il doit être éternel, ou au moins, il doit durer toute une vie. Et c'est ce qu'on dit. Quand on se marie, on veut construire un foyer. On a des projets de vie. On veut, eh bien, un travail, un bon travail pour tous les deux. On veut commencer à s'organiser, donc en achetant une maison pour faire ensuite des petits, des bébés qui vont grandir, hein. Petit, petit souci, grand, grand. Je vous laisse finir la suite. Vous voyez, mais c'est ça. On pense donc que c'est ça la vie. Et on dit voilà comment ça doit être. Or, sans Dieu, déjà, pas d'éternité. Alors que nous, on veut que ces choses durent longtemps. D'ailleurs, on parle de cryonisation, c'est ça, hein? Parce qu'on dit peut-être qu'un jour, on va trouver le moyen de nous faire revivre. Ça veut dire qu'on veut vivre longtemps, longtemps. Il y en a qui ont cherché le sérum pour l'éternité. Ils cherchent encore, hein? On est sur les chercher, hein? En tout cas, sans Dieu, rien de durable. Alors, qu'est-ce qu'on va passer? 40, 50 ans, 70 ans, sans savoir déjà ni d'où l'on vient, ni où on va. Suivre un but, bien sûr, se construire un idéal, bientôt qui va être englouti ben, par la tombe. Dites-moi, est-ce que c'est vraiment ça, vivre? C'est la seule espérance que vous avez? Moi, j'en ai une autre, hein, maintenant. Mais avant, j'étais comme vous, hein. Bon. Alors, travailler, peiner toute sa vie pour une idée qui ne doit durer, je dirais, que le temps de notre courte vie ici-bas. Cela vaut-il la peine? Question. Répondez chacun, hein, dans votre cœur. Ensuite, que reste-t-il? Le temps détruit. La génération suivante a déjà tout oublié. Nous, avec un peu d'âge, on dit « Ah, dans les temps anciens, c'était autrement. Hein? Avant, qu'est-ce que c'était bien ?» Bon, on a quand même apprécié le confort. On a quand même apprécié la machine à laver pour les mamans. Hein. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas les couches. C'était les langes. Hein. Oui, peut-être que vous n'avez pas connu, mais certains ont connu ça. Hein. La lessiveuse où on faisait bouillir et allez. Et allez. Hein. Eh ouais, le lavoir. Dans mon village, il y avait le lavoir. Il y avait deux, trois lavoirs, il y avait dans mon village. Eh bien oui, eh bien. Ça permettait de discuter, ça créait du social un peu. Voilà. Mais en tout cas, on voit une chose, c'est qu'on oublie ces choses-là. L'apôtre Paul a dit ceci, « Si nous vivons pour ces temps-ci, nous sommes les plus malheureux des hommes. » 1 Corinthiens 15, 19. Nous sommes les plus malheureux des hommes. Alors bien que ce croyant très grand, intelligent, fort, répondant à tout, eh bien les hommes ont besoin de quelqu'un de supérieur pour les guider, et pour les faire vivre. Libre, pas sûr. Mais en tout cas, vivre. Alors, vous ne pouvez résoudre tous vos problèmes. Sinon, vous ne seriez pas là. Et même les plus sages de ce monde ne peuvent apporter toutes les solutions. Les plus grands cerveaux ne peuvent répondre à tout. La médecine actuelle ne peut guérir tous les maux. Heureusement qu'elle existe et que Dieu a donné l'intelligence à ces hommes qui, ça leur permet de nous soigner, de nous soulager. Hein, c'est important, bien sûr. Alors, vous ne pouvez consoler toutes les peines, toutes les larmes, bien sûr, la tristesse. Et votre ami également, le meilleur de vos amis, ne peut pas répondre à tous vos besoins, ne serait-ce que de sécher vos larmes. Pendant un temps, vous allez pouvoir poser votre tête sur son épaule. Et s'il a des mouchoirs, il va vous en passer au fur et à mesure. Mais quand vous êtes malheureux, vous êtes malheureux. Quand vous êtes triste, vous êtes triste. Quand votre cœur est déchiré, il est déchiré. Amen. Alors les habitants d'Éphèse se trouvaient dans cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'ils vivaient en ce monde comme un petit peu des automates, vous voyez. Et leur vie n'avait rien de supérieur à celle des bêtes ou des animaux. Leur cœur était attaché aux choses de cette terre. Et ils croyaient en cette parole, quand on est mort, eh bien, on est bien mort. Ça va pas loin, hein? Eh oui. Alors, ils n'avaient personne pour les guider, pour les comprendre, pour les guérir. Ils n'avaient personne pour les consoler et remplir le vide de leur vie. Le vide de leur vie, c'est terrible. Eh oui. Leur espérance était nulle. Les jours succédaient aux jours. Ils se ressemblaient, bien sûr, par leur monotonie. Ils avaient bien leur Dieu. Pauvres choses de pierre, vous voyez, de bois, quelquefois recouverts d'or, bien impuissants d'ailleurs pour leur répondre, pour les sauver, pour les soulager. Non, ils ne pouvaient pas. C'était des choses qu'ils étaient fabriquées, des dieux fabriqués de la main de l'homme. Vous voyez. Alors, beaucoup actuellement agissent un petit peu comme ces Éphésiens. Ne pense qu'aux choses d'ici-bas, cherche une bonne situation, désire se faire une place, il court après la fortune et ne s'occupe aucunement de Dieu. Ce que je vous dis, c'est dépassé pour eux. Dieu s'est dépassé. Alors, si vous êtes dans ce cas, eh bien, une chose, levez les yeux déjà. Vous n'êtes pas posé la question, qu'est-ce que je fais ici-bas? Pourquoi est-ce que je suis là? Moi, j'ai des personnes qui me l'ont posé plusieurs fois dans des moments d'entretien. Personnes qui on sentait leur misère intérieure, on sentait leur souffrance, leur désarroi. Ils me disent, mais qu'est-ce que je fais ici-bas? Je n'ai pas demandé à venir. Et bien sûr, tu n'as pas demandé, bien sûr. Mais aujourd'hui, si tu es ici-bas, tu attends des réponses. Et je pense que c'est pareil pour toi. Tu attends certainement des réponses, tu ne les trouves pas, tu as cherché à divers endroits et tu ne sais plus où te tourner. Alors quand je dis que leur espérance était nulle, peut-être que jusqu'à présent, ça te ressemble. Tu n'as aucune espérance. Tu vis au jour le jour. Tu n'oses pas te projeter dans l'avenir. Parce que tu te dis, j'ai tellement subi d'échecs. J'ai tellement été trompé, j'ai été trahi. On m'a fait croire, on m'a fait miroiter. Au dernier moment, un autre est passé devant moi. C'est une souffrance terrible. Eh oui, alors. Beaucoup actuellement, et je pense que tu en fais partie, agissent comme ces Éphésiens. C'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'aux choses d'ici-bas. Quand je dis qu'ils cherchent une situation, c'est pareil pour toi. Hein. Alors, si tu es dans ce cas-là, je reviens à ce que je disais, lève les yeux, réfléchis un petit peu, arrête-toi sur le chemin de la vie, fais un point. T'entends, on te demande de faire le bilan de santé. Des fois, c'est professionnel aussi, un bilan professionnel, pour savoir si on ne peut pas évoluer autrement ou dans une autre direction. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ici-bas? Aujourd'hui, on constate une chose, c'est que tout s'écroule. Tout s'écroule. On avait créé une société en croyant, et d'ailleurs, au fil des élections, on a vu qu'il y avait des directions qui changeaient pour revenir toujours au même point. Et ce qui a été, nous dit la Bible, c'est ce qui sera. Les modes changent, les évoluent, mais si vous gardez vos vêtements ou vos choses à la mode aujourd'hui, dans 10, 15, 20 ans, ce sera la mode. Vous avez fait le tour, hein? 20 ans, paf, t'as la mode aujourd'hui. Eh oui, vous vous rappelez des pâtes d'éléphant? Ça revient! Ça revient à la mode! Eh oui! Alors, les choses les meilleures, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, les choses les meilleures? On les voit disparaître. Et quoique vivant dans le monde et entouré de beaucoup d'amis, eh bien, souvent, on s'est retrouvé tout seul. Tout seul avec ces situations difficiles, tout seul avec ces problèmes. Les circonstances, à ce moment-là, sont difficiles à cerner. Pourquoi est-ce que je vis cela? Pourquoi maintenant, alors que je suis au plus bas? Alors, ça veut dire une chose, c'est que vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin, tout simplement, eh bien, de lui, non seulement pour plus tard, mais déjà pour aujourd'hui, hein, ici-bas. Vous avez besoin de lui pour qu'il remplisse votre cœur, pour qu'il donne un sens à votre vie. L'âme humaine aspire aux choses belles, pures, éternelles, et le Seigneur est le seul qui puisse vous les donner. J'ai vécu dans le monde. J'étais au contact de la société. Et j'ai même fait partie de ce monde. Et je sais que les discussions, on ne le vole pas bien haut. Les sujets, ils ne sont pas très élevés. Ils sont plutôt bas. Oui. Souvent, c'est en dessous de la ceinture. Eh oui. Alors, le seul qui puisse vous amener à vivre un vrai changement, à vivre des choses qu'ensuite vous ne regrettez pas, qui ne vous laisse pas un goût amer, eh bien, c'est tout simplement déjà, comme je vous ai dit, de lever les yeux vers lui. La Bible nous dit que où deux ou trois sont assemblés au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Ce soir, il est au milieu de nous. Amen. Si vous voulez des choses belles, si vous voulez que votre cœur, eh bien, reçoive des choses bonnes, qui vous réjouissent intérieurement, qui vous donnent également cette paix extraordinaire dont vous avez besoin, eh bien, c'est auprès de lui. C'est en tournant les regards vers le Seigneur Jésus. Vous avez besoin de le rencontrer et pour le connaître, eh bien, il n'y a qu'un seul chemin. C'est le Christ. C'est lui qui vous fera connaître le Père Céleste. C'est lui qui vous fera connaître l'amour de Dieu. C'est lui qui vous fera connaître la paix véritable. Il est le prince de la paix. Amen. C'est lui, tout simplement, le Fils unique. C'est lui, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. On a voulu multiplier les chemins, multiplier les moyens. C'est simple, l'évangile. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et nous, on complique tout. Il faut que tu ailles faire un pèlerinage au Rajasthan, ou je ne sais pas trop où, en Inde. Eh oui, ou alors à Lourdes, ou alors. Il y a tellement de lieux sur lesquels eh bien, les hommes vont s'appuyer pour trouver des réponses. Le seul qui te connaît véritablement, c'est Jésus. C'est Dieu lui-même. Le seul qui peut te donner de vraies réponses, je disais des choses qui vont répondre vraiment à tes besoins. C'est le Fils de Dieu, c'est le Sauveur. Quand je dis qu'il est Fils de Dieu, Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Quand les gens nous disent c'est dépassé Dieu, on en parle encore après combien d'années, de siècles? Dites-moi. On parle encore de Dieu. Alors il faut le rencontrer. Vous savez qu'il nous a tracé, et il n'y a que lui qui l'a fait, la route du ciel. C'est lui qui nous amène à la réconciliation avec lui-même par le sacrifice de son fils Jésus. Tout à l'heure, ça a été chanté. C'est lui. Il a choisi de sacrifier son fils pour que nous puissions vivre alors que nous étions pécheurs, alors que nous nous moquions de Dieu, alors que nous levions le poing contre lui. Lui, il a choisi de sacrifier son fils pour nous donner la vie. L'Écriture nous dit que par son sang précieux, il nous a fait grâce. Il nous a lavés, il nous a purifiés de tout péché. Et il apporte à notre cœur, quand on l'accepte pour soi-même, moi je l'ai fait, j'ai accepté pour moi-même, eh bien, on reçoit en ce moment-là une paix extraordinaire. Tout peut s'écrouler autour de nous. On sait qu'on est gardé, qu'on est protégé. On sait que Dieu nous tient dans sa bonne main. Et ça, c'est formidable. Amen. Éloigné du Seigneur de la vie, Jésus veut vous rapprocher de lui. Étranger de Dieu, Jésus veut vous faire devenir ami de Dieu. Ça change tout, ça change la vie. Eh oui, Jésus a détruit le mur de séparation d'avec Dieu. Ce mur a été dressé à cause de nos péchés, de notre mauvaise nature. Et la Bible nous dit qu'il a détruit par sa mort ce mur de séparation. Amen. C'est-à-dire que lui se présente devant le Père et dit « Bénis-le, j'ai payé pour lui. Ma vie a été sacrifiée pour que lui puisse vivre. Sauve le Père. » À la croix du calvaire, c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, Dieu veut être votre Père. Votre Père. Amen. Vous avez besoin de lui ici-bas, déjà, pour réussir votre vie. Et là, on y pense moins, mais aussi pour l'éternité. Pour l'éternité. Vous y pensez un peu, l'éternité ? Quand je dis éternité, à quoi vous pensez ? Éternel. À quoi vous pensez ? Qui n'a pas de fin. Qui n'a pas de fin. Nous, on dit, la vie s'arrête au dernier souffle. Fini. La tombe, on n'en parle plus. Génération suivante, on t'oublie. Vous voyez ? Alors que la Bible nous dit que justement, quand nous croyons en Dieu, quand nous croyons à son plan magnifique, ce plan extraordinaire, le salut par le moyen de la foi, au sacrifice du Fils de Dieu, eh bien, on trouve la vie éternelle. Amen. C'est-à-dire qu'on entre déjà dans l'éternité ici-bas. Je fais partie de ceux qui sont rentrés dans l'éternité. Alléluia. Ça ne vous fait pas envie ? Ah, vous dites, ouais, mais on va s'ennuyer. Non, on ne s'ennuiera pas. Parce qu'on aura accès à des choses qu'aujourd'hui, on ne peut même pas imaginer. Un monde de paix. Non pas un monde troublé, mais un monde de repos. Non pas sans activité, parce que Dieu nous donnera des choses à faire. Vous y pensez à ça ? Et ça pour l'éternité. Alléluia, on habitera une belle maison. Ceux qui n'ont pas de maison à eux, ils en auront une au ciel. Eh oui ! Comment on dit ceux qui sont à la rue ? Répétez plus fort. SDF, ouais, on a des termes. Hein. Sans domicile fixe. Vous voyez ? Eh bien oui, là où ils auront une belle maison. S'ils se sont donnés à Dieu. S'ils ont fait la paix avec Dieu. S'ils ont accepté pour eux-mêmes le sacrifice de Jésus. S'ils ont fait leur, eh bien tout simplement, cette œuvre magnifique, le sacrifice d'un innocent pour des pécheurs. C'est ce qu'a fait Jésus. Lui, le juste, le seul juste que la terre ait connu, a sacrifié sa vie. Il a livré un sacrifice pour que nous puissions vivre. Il nous représente devant Dieu. Il est incontournable. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pas à peine de multiplier les chemins. Il n'y en a qu'un. Un véritable. Celui qui nous assure tout simplement de nous retrouver devant le Père. Au bon endroit. Alléluia. Pour recevoir l'héritage qui nous revient. Extraordinaire, non ? Amen. Alors quand je dis que lui seul peut remplir votre cœur, votre âme, c'est ce qu'il peut faire. Et à partir de là, avec Jésus, vous ne serez plus seul pour affronter l'éternité. Il vous parlera intérieurement. Il vous fera, quelque part, discerner le bien du mal. C'est-à-dire que votre conscience, de nouveau, va fonctionner. Notre conscience aujourd'hui, sans Dieu, elle fonctionne par intermittence. Et puis hop, ça y est, ça revient. Oh là 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 là. Vous voyez, c'est par intermittence. Quand ça nous attire un peu, là, on a envie d'y aller, on le fait. On fait taire la conscience. Puis après, on se réveille, on a des... Vous savez, quand on boit quelque chose, ça nous fait mal. On avale comme cela des torboyaux. Puis après, on n'est pas bien. Et puis, on se refait une petite santé, puis on repart. Hein, on se donne en tout temps une bonne conscience. On fait attention à faire les choses bien, pas mal. On respecte, vous voyez. Et puis, de nouveau, ça repart. Parce que c'est plus fort que nous. C'est plus fort que nous. Eh oui, eh oui. Alors, Jésus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Dieu, c'est Emmanuel avec nous. Il est notre seul sauveur. Il veut nous conduire jusque dans la félicité éternelle. Et ça, eh bien, je reviens à ce que je disais au début, c'est l'expérience des Éphésiens. Ils l'ont vécu. Tout au moins, ceux qui faisaient partie de l'église d'Éphèse. Ils l'ont vécu. Et ça peut devenir également ton expérience à toi. Ça l'est déjà devenu pour moi, pour d'autres également, hein, mais ça l'est déjà devenu pour nous. Amen. Alors, si ça devient cela pour vous, vous pourrez dire avec l'apôtre Paul, à Éphésiens 2:13, « Maintenant, en Jésus-Christ, moi qui étais jadis éloigné, j'ai été rapproché par le sang de Christ. » Par le sang de Christ. Se rapprocher de Dieu pour l'aimer, faire également une expérience profonde avec lui, connaître tout son amour, ses plans envers nous, voilà la félicité éternelle. Alléluia. Voilà ce que désire Dieu. Voilà ce que Jésus, eh bien, vous a amené à vivre. Voilà le pourquoi de sa vie et de sa mort. Tout est là, mes amis. Tout est là. Il est mort pour que vous reconnaissiez un jour le Père Céleste, que vous connaissiez et que vous bénéficiez de son grand amour, pour que vous ne soyez plus sans espérance, mais que vous sachiez où vous allez, que vous soyez capable de dire, quand on vous propose quelque chose de mauvais, non. Ça fait de nous des hommes. Des vrais. Des vrais. Pas des femmelettes, des hommes. Et des vraies femmes. Pas de jaloux. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Alors, quand je vous parle de ces choses, pourquoi Jésus est venu, il nous parle, je ne parle pas de l'abstrait, mais je vous parle de choses authentiques, véritables. J'ai vu des personnes qui étaient remplies de méchanceté et qui sont tombées sur plus fort qu'eux. Et ce jour-là, alors qu'ils n'avaient jamais fléchi les genoux devant personne, ils ont bien été obligés de reconnaître que quelqu'un était plus fort qu'eux. Et là, ça remet en question. Vous dites, si le gars, il fait ce que moi, je suis capable de faire aux autres, je vais déguster. Je vais peut-être même y laisser ma vie. Il y a un gars qui vivait comme cela, à New York, un Portoricain. Il vivait comme cela. Il avait été largué par la famille, ses parents, à l'âge de 8 ans. Il avait été livré à lui-même. Il avait fait son chemin, il avait fait son trou, comme on dit. Ouais. Il s'appelle Nicky Cruz. Je me suis retrouvé à côté de lui à Marseille. Voilà. Il n'est pas très grand, mais il devait être impressionnant quand il n'avait pas le Seigneur. Parce que c'était une terreur. Il était chef de gang, chef de gang. Et ce gars-là, un jour, un pasteur est venu lui parler de Jésus. Le pasteur est venu lui parler de l'amour de Dieu pour lui. Et ça l'énervait. Amour, il ne connaissait pas. La castagne, il connaissait. Le couteau, il connaissait. Mais l'amour, il ne connaissait pas. Et cet amour, ce pasteur lui a parlé de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, à tel point qu'il va lui dire ceci, parce qu'il sentait que en face de lui, Nicky Cruz avait tout simplement eh bien, de la haine à l'intérieur de lui. Il a dit, Nicky, tu peux me couper en morceaux. Mais chaque morceau de ma personne te dira, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Ça l'empêchait de dormir. Toute la nuit, il a été travaillé par cette parole, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Jésus t'aime. De se tourner à droite, se tourner à gauche, se mettre sur le ventre, sur le dos. Il était assis. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dieu l'a travaillé jusqu'au point où il a fléchi le genou devant lui. Il s'est converti. Il est devenu un pasteur mondialement connu. On connaît hein, les pays la croix, je crois que c'est ça, ou la croix et les pays. La croix, le poignard, voilà, la croix, le poignard. Eh oui. Eh oui. Mais c'est une histoire authentique, hein. C'est sa vie. C'est la vie de cet homme. Je ne vais pas parler de ses parents. Mais en tout cas, lui a fait son chemin. Il se passera des choses après pour ses parents. Mais il a compris. Il a compris que ce n'est pas avec la violence, ce n'est pas en faisant du mal autour de lui qu'il allait trouver le bonheur. Il l'a trouvé que quand il a accepté l'amour de Dieu pour lui. Amen. Alors Dieu passe sur les temps d'ignorance, comme dit la parole de Dieu. Il tire un trait sur le passé et il nous fait grâce. Et tout cela par le moyen du sang de son Fils bien-aimé. Est-ce que vous voulez que Dieu vous bénisse ce soir? Je ne vous demande pas de lever la main, c'est personnel. Tu as besoin de lui. Tu as besoin tout simplement qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Tu as besoin tout simplement qu'il te visite. Alors déjà, tu vas commencer par faire une chose. C'est de fermer les oreilles, non pas aux choses de Dieu, mais aux choses de ce monde. Aux bons conseils de tes amis, que tu dises que tu es comme ça, tu ne changeras jamais. Ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Vous n'avez pas entendu ça? Tu es un loser. Eh oui, c'est des choses qu'on entend. Ouais, mais toi, tu es fait pour ça. Alors que Dieu veut le meilleur pour toi. Alors que Dieu se propose de te remplir de sa présence, de faire de toi un homme ou une femme nouvelle. Dieu te propose de la réussite pour ta vie. Non pas n'importe quel prix. C'est simplement au prix du sang de l'agneau, du sang de Jésus-Christ. Amen. Alors ferme les oreilles à ces choses. Oublie pendant un instant ces choses de la vie, ces difficultés qui te tiennent comme, eh bien, savez, comme broyé, écrasé. Eh oui, non. Et fais une chose, lève-toi vers Dieu. Dieu, tu es là. Dites-lui. Dieu, tu es là, fais quelque chose pour moi. Priez dans votre cœur. Demandez la grâce de Dieu. Demande-lui de vous visiter, de faire quelque chose pour vous. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Maintenant, je te prie, agis maintenant pour moi. Tu connais mes problèmes, tu connais mes besoins, ma détresse, mes larmes, ma maladie. Je ne sais pas tout ce qui peut vous arriver aujourd'hui, mais il le connaît, il le sait. Alors maintenant, dites-lui, je te prie au nom de Jésus. Passe dans ma vie. Passe dans ma vie. Amen. J'insiste en disant que les larmes soient asséchées, que le péché disparaisse, que les difficultés s'évanouissent, que la paix vienne dans votre vie, auprès des vôtres également. Amen. Et maintenant, moi je le crois, si vous avez fermé les yeux, si vous avez fait cette prière, le Dieu d'amour et de grâce est en train de passer dans votre vie. Moi je le crois, il est en train de passer dans toute sa grandeur. Alléluia. Passe, Seigneur, viens, descends, allez, visite, Seigneur, alléluia, transforme le mal en bien, apporte tout simplement un grand bouleversement, fais-le pour la gloire du nom de Jésus, alléluia, que la grâce de Dieu pénètre dans toutes ces vies ce soir, moi je le veux, je le désire, amen, il va le faire, parce que c'est la mission de Jésus, il est venu pour sauver ce qui était perdu. Il est venu pour guérir les malades. Il est venu pour apporter la vie où elle a totalement disparu, pour apporter l'espérance où elle n'est plus, où elle fait défaut. Tu as besoin de Jésus. J'aimerais qu'on ferme les yeux, je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce, parce qu'elle surabonde là où le mal abonde. Merci de visiter cet auditoire, les amis qui sont là, même parmi tes enfants, ceux qui ont besoin de toi. Merci de te révéler, Seigneur, tout à nouveau. Merci de faire de miracles, Seigneur, parce que je sais que tu es le Dieu du miracle. Je ne parle pas, Seigneur, en l'air de ces choses-là, mais au contraire, c'est avec sérieux. Parce que je sais que tu as fait des choses, Seigneur, dans bien des vies déjà. Et tu veux le faire pour ceux qui sont là ce soir et qui aspirent à un renouveau intérieur. à vivre quelque chose de fort, quelque chose de surnaturel, à goûter enfin à ton amour, à cette paix qui vient d'en haut. Je te demande de leur accorder ta grâce. J'aimerais que nous restions comme cela, les yeux fermés, les têtes baissées. Toi qui as besoin, c'est le moment. Lève ta main. Moi, je l'ai fait un jour. Lève ta main. Et Dieu va te visiter. Oui, Dieu vous voit. Baissez votre main. Dieu vous voit. Baissez votre main. Dieu vous voit. Baissez votre main aussi. Dieu vous a vu. Oui, Dieu vous voit aussi. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? N'hésitez pas. C'est le temps de Dieu. Dieu vous accorder sa grâce, son pardon. Dieu vous accorder la paix qui vient d'en haut. Alléluia. Dieu vous visiter à l'intérieur pour vous donner des victoires sur votre nature. Oui, Dieu vous voit aussi. Baissez votre main. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Après, j'arrête. Je n'ai plus d'appel, je vais prier. Oui, Dieu vous voit aussi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu vous a vu, oui. Alléluia. Merci, Père. Tu as vu ses mains levées, ses cœurs ouverts, ses vies, Seigneur, qui veulent s'en remettre à toi pleinement. Alors visite-les au travers de ton esprit. Tu es dans ce lieu et maintenant, je crois que tu passes dans les rangs. Tu passes dans les rangs. Et tu viens prendre soin de ceux et celles qui ont dit « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Peut-être quelqu'un n'a pas osé lever sa main, mais tu entends et tu vois, Seigneur, cette prière qui monte vers toi. Alors prends soin là aussi de tous ceux et celles qui sont là ce soir. Merci dans le nom de Jésus et à toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Croyez.